Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, au micro Morgane Guiriac et Anne Albertson. Bienvenue à l'écoute de cette édition du jeudi 4 février 2016. À la une ce matin.
Le procès de l'ancien chef rebelle Germain Katanga a débuté hier à Kinshasa.
En Centrafrique, le sous-préfet et le maire de Baboua, enlevés depuis plus de 7 mois, sont en vie et bien traités.
À Genève, les discussions de paix sur la Syrie ont été suspendues jusqu'au 25 février.
Pendant ce temps, en Belgique, un gouverneur appelle à ne pas nourrir des réfugiés.
Le président Barack Obama s'est rendu hier pour la première fois dans une mosquée ici aux États-Unis.
Comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
En Centrafrique, le sous-préfet et le maire de Baboua, dans le nord-ouest du pays, enlevés depuis plus de 7 mois par des hommes armés, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Le gouvernement de transition a mis en place un comité de suivi des otages en vue de mener des négociations pour leur libération. Pour l'instant, les otages sont en vie et bien traités, a indiqué le préfet de la Nana Mambéré, Frédéric Wagonda, joint par Félix Liepassis Zembrou.
Nos otages sont bien portants, ils sont bien traités par leurs ravisseurs.
Et qui sont ces ravisseurs, monsieur le préfet?
Ils sont en vie. Bon, vous savez, dans des genres de négociations, j'ai toujours privilégié l'anonymat. On se réserve parce que moindre déclaration, ça pourrait capoter toute négociation qui est en cours. Et je pourrais aussi vous informer que le gouvernement a franchi un pas par la mise en place d'un comité de suivi des otages de Baboua. Et les membres de ce comité sont déjà actifs et je pense que les choses évoluent. Vraiment, je pourrais vous rassurer très positivement.
Vous dites qu'ils sont en vie, qu'ils sont bien traités. Avez-vous eu l'occasion d'entrer directement en contact avec eux?
Bon, vous savez, pour entrer en contact avec ces ravisseurs, ils sont dans une zone où il n'y a pas le réseau téléphonique. Mais par contre, pour les gens, il faudrait que ce suraccord de leurs ravisseurs avance. Ils quittent d'abord la zone où ils sont pour retrouver la zone des réseaux. Bon, mais là, ça relève directement de la vie des ravisseurs, monsieur le journaliste.
Quelles sont les revendications de ces ravisseurs, monsieur le préfet?
Les revendications, à mon avis, elles sont multiples. Vous savez, ce sont des gens qui ont mis beaucoup de temps en bourse et qui veulent vraiment aussi être libres comme nous. Et d'autres revendications matérielles sont là, mais je pense que le gouvernement est bel et bien en possession de ces revendications. Et je pense que le gouvernement est en train d'étudier, le gouvernement de transition se bat pour que tout soit dénié à la fois.
Frédéric Wagonda, préfet de la Nana Mambéré en Centrafrique.
Au Mali, le journaliste Birama Touré du journal Le Sphinx est porté disparu depuis vendredi soir. Depuis vendredi, il a quitté sa famille pour rentrer chez lui à Sébéni Koro, à Bamako. Depuis, aucune nouvelle de lui. Son frère, Moussaka Touré, lance un appel de détresse.
Vendredi soir, on était avec lui ici à Bagadadi. Il est resté avec nous jusqu'au-delà de 18h30. Après, il est parti à Sébéni-Koro, c'est là où il est logé. Comme quand, très jeunement, quand il vient dans la grande famille, il quitte ici pour aller, il dort là-bas à Sébéni-Koro, chez lui. Il est parti. Depuis ce jour-là, nous-mêmes, on n'a plus de nouvelles. Le dimanche et le lundi, on a essayé de le téléphoner sur son portable. Le dimanche, à partir de 19h, le téléphone est parti directement sur le répondeur. Dès lors, on n'a plus ces nouvelles. Même dans la famille, on a demandé à nos frères, nos neveux et ces vieux qui sont là. On les a tous demandés. Ils nous ont tous dit qu'ils n'ont pas eu ces nouvelles. On a même fait démarche auprès de la gendarmerie. Et on est même parti voir la police du 3e arrondissement. Et ils nous ont même conseillé de passer notre communiqué à la radio pour voir si on peut avoir des gens pour nous secourir.
Moussaka Touré, le frère de notre confrère Birama Touré, porté disparu à Bamako.
En Mauritanie, les lois contre la torture et les mauvais traitements ne sont pas appliquées. Critique formulée par le rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture, qui vient d'effectuer une visite officielle dans ce pays. De nouvelles lois exemplaires sur la prévention et la répression de la torture ont néanmoins été promulguées, reconnaît Juan Mendes. Le rapporteur des Nations Unies a dit avoir visité une prison où se trouvent des salafistes condamnés à mort. Il a fait état de passages à tabac, de menaces et de violences verbales.
Riek Machar était hier en Égypte. Le chef rebelle du Soudan du Sud est invité par le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les discussions devaient porter sur le soutien de l'Égypte pour la mise en œuvre de l'accord d'août dernier visant à mettre fin au conflit au Soudan du Sud.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
À Genève, les discussions de paix sur la Syrie ont été suspendues jusqu'au 25 février. Mais l'émissaire de l'ONU se refuse à parler d'échec. Jean-Roger Bion.
L'émissaire de l'ONU, Stéphane de Mistura, a annoncé hier une pause temporaire et a fixé le 25 février pour les prochaines discussions. Ce n'est pas l'échec des pourparlers qui était censé amener les belligérants syriens à des discussions indirectes, a-t-il souligné. Pour sa part, l'opposition syrienne a fait savoir, par la voix de son représentant Riyad Hijab, qu'elle ne reviendra pas à Genève tant que ses demandes sur le volet humanitaire ne seront pas satisfaites. Sur le terrain, il n'y a eu aucun signe de trêve. D'ailleurs, le régime de Damas, épaulé par les bombardements russes, commence à marquer des points. Hier, l'armée syrienne a coupé la principale route d'approvisionnement des rebelles à Alep et brisé le siège de deux villes chiites encerclées depuis 3 ans. Le groupe international de soutien à la Syrie, regroupant une vingtaine de pays, est censé se réunir le 11 février à Munich. Londres doit, de son côté, abriter jeudi une conférence des donateurs pour tenter de lever 9 milliards de dollars en faveur des 18 millions de Syriens victimes de la guerre.
À noter que dans le cadre de cette conférence des donateurs, le gouvernement britannique a promis ce jeudi plus d'1,5 milliard de dollars supplémentaires d'ici 2020. Du côté de Washington, le secrétaire d'État John Kerry a jugé que l'offensive de l'armée syrienne, épaulée par des frappes russes, mettait en péril le processus politique amorcé sur le conflit en Syrie.
La Corée du Nord pourrait préparer le lancement d'un missile balistique depuis une base de la côte est de ce pays. C'est ce que rapporte la télévision publique japonaise. Déjà mardi, Pyongyang s'était attiré les foudres de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis en annonçant son projet de lancer une fusée depuis le nord-ouest du pays. Bon nombre de pays et d'experts y voient un essai déguisé de missile. À long terme, l'objectif de la Corée du Nord serait d'être capable de placer une tête nucléaire sur une fusée.
Lutte contre le virus Zika ici aux États-Unis. La Floride, aux portes de l'Amérique latine, a mobilisé des moyens pour se préparer à une éventuelle propagation de l'épidémie. 4 comtés sont en situation d'urgence sanitaire. Des campagnes de fumigation sont prévues. Il faut dire que 6 nouveaux cas ont été détectés en Floride, ce qui porte à 9 le total de personnes infectées dans cet État.
États-Unis toujours avec l'affaire Bill Cosby. Un juge a validé les poursuites pénales engagées contre l'acteur américain. Accusé d'agression sexuelle par des dizaines de femmes, Bill Cosby pourrait donc avoir affaire à un procès au pénal. Une affaire qui ne concernerait qu'une victime présumée, Andrea Costand. En 2004, Bill Cosby avait reconnu lui avoir donné une pilule avant de se livrer à des attouchements sexuels, un acte consenti d'après l'acteur.
La religion dans tous ces États ici aux USA. Un faux prêtre a été arrêté cette semaine à Los Angeles après avoir donné 2 fausses messes, orchestré des mariages bidons et signé des guérisons miracles. Erwin Mena, 59 ans, a vendu de faux tickets pour aller voir le pape François lors de sa visite aux États-Unis. Ces escroqueries ont été évaluées à 53 000 dollars.
Et religion toujours, pour terminer, en Arizona, des membres d'un conseil municipal tentent de s'opposer à ce qu'une prière soit prononcée à l'ouverture de leur réunion. Il s'agit d'une tradition, mais cette fois-ci, la prière est de nature un peu spéciale, puisqu'elle serait donnée par un groupe sataniste. Le temple satanique de Tucson entend ainsi exercer son droit constitutionnel de pratique libre de la religion.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Le Mozambique va bientôt bénéficier d'une aide budgétaire de 200 millions de la part de l'Union européenne. Une somme destinée à renforcer les finances publiques du pays paralysées par la chute de la monnaie nationale et la baisse des cours de matières premières. Annoncé le 1er février, les fonds serviront également à financer les investissements publics dans le domaine du développement des zones rurales et des infrastructures. Le projet de loi Électrifier l'Afrique a été adopté par le Sénat américain et soumis hier au vote de la Chambre des représentants des États-Unis, qu'il a à son tour adopté. Le secteur privé américain accompagne cette initiative étatique avec des investissements évalués à 43 milliards de dollars. La chute des cours du pétrole rend inévitable des ajustements budgétaires chez les pays d'Afrique subsaharienne, exportateurs d'or noir, a prévenu le Fonds monétaire international mercredi. Depuis l'été 2014, le prix du baril de pétrole brut a dégringolé d'environ 70% pour évoluer autour de 30 dollars, privant les pays exportateurs de ressources budgétaires cruciales, notamment en Afrique de l'Ouest.
La Minute Éco. Merci John. On enchaîne sur les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
Chaîne 2016, deuxième demi-finale ce jeudi.
Un choc 100% ouest-africain entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali. Les éléphants partent bien sûr favoris, mais les aigles restent une équipe dont il faut se méfier. Hier, lors de la première demi-finale au stade Amahoro de Kigali, le match a tenu toutes ses promesses. Les léopards de la RDC et les Sili National de Guinée n'ont pu se départager pendant le temps réglementaire. Un but partout après prolongation. Les léopards l'ont emporté pendant les tirs au but.
Élection à la FIFA, Ferguson soutient Infantino.
Oui, l'ancien manager de Manchester United a annoncé son soutien au secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, dans la course à la présidence de la FIFA, à l'instar d'autres grands noms comme José Mourinho et Fabio Capello, ou encore du ministre russe des Sports, Vitaly Mutko.
Football et géopolitique, la FIFA a retiré des réseaux sociaux mercredi une carte de la Russie où était absente la Crimée.
Oui, la FIFA a retiré la Crimée annexée par Moscou en 2014 afin d'éviter, je cite, tout malentendu. En octobre 2014, la FIFA s'était excusée pour la diffusion d'une carte incluant la Crimée dans la Russie lors de la présentation de l'emblème officiel du Mondial 2018. L'utilisation de cette carte, alors que la communauté internationale ne reconnaît pas le rattachement de la Crimée, une région d'Ukraine, à la Russie, avait provoqué de nombreuses réactions, notamment à Kiev et à Moscou.
En tennis, le Suisse Roger Federer opéré du genou mardi.
Oui, le troisième joueur mondial souffre d'une blessure survenue au lendemain de sa demi-finale à l'Open d'Australie et sera absent jusqu'à la fin février. Selon son site officiel, Federer, âgé de 34 ans, a atteint la demi-finale du dernier Open d'Australie, battu en 4 manches par le futur vainqueur, le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Et Morgan, pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets, 97-106. Atlanta Hawks, Philadelphia, 124-86. Detroit, Boston Celtics, 95-102. Indiana, Brooklyn, 114-100. Golden State Warriors, Washington Wizards, 134-121. Orlando Magic, Oklahoma Thunder, 114-117. Miami Heat, Dallas, 93-90. New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, 97-110. Denver Nuggets, Utah Jazz, 81-85.
Zoom sur les élections présidentielles américaines, primaires, conventions, Super Tuesday, les grandes étapes dans la course pour la Maison Blanche, un processus propre aux États-Unis et avec des candidats ultra médiatisés. Qu'en pensez-vous? Suivez-vous cette élection? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Bonjour les amis! C'est Roger Montou
et Anastasie Tudiech.
Le chanteur Akon a été l'invité spécial de Vous et Nous.
Eh oui, Roger, son futur album, la société qu'il dirige et qui fournit de l'électricité en Afrique, son journal intime, il nous a tout dit.
Ne manquez pas son interview jeudi 4 février sur VOA Afrique à la télévision, mais aussi à la radio. À bientôt.
Let them know they're missing out. Sing again. Hey. This for all the love and the life took away. Hey. Don't forget we were bought and traded. Ripped from the land and shipped away. Hey. I is the inspiration we use to survive. See. You have to see it with your own cries. Hey. Don't play add it up in a ride.
Fresh and green. And every day I water my Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale, la République démocratique du Congo. Le procès Germain Katanga a débuté hier à Kinshasa. L'ancien chef rebelle a comparu avec 6 de ses co-prévenus devant la haute cour militaire. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, conscription ou enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans un groupe armé et crime contre l'humanité par meurtre. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Germain Katanga ne pouvait être poursuivi après avoir été condamné par la justice internationale pour les mêmes faits. Maître Peter Ngomo affirme que la haute cour militaire viole la loi en la matière.
Au regard des documents en notre possession, notamment les différentes ordonnances de la CPI, et il y a notamment un accord ad hoc que le gouvernement a signé avec la CPI, dans lequel accord il est dit ceci, que Germain Katanga ne pouvait plus être poursuivi en RDC pour tous les actes commis antérieurement à son transfert à la CPI. Tous les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont antérieurs à son transfert à la CPI. Partant des dispositions de l'article 215 de la Constitution qui dit que une fois signé un traité international a une valeur supérieure à notre loi. Nous nous retrouvons devant deux personnes de droit international. La RDC, représentée par le ministre de la Justice, et la CPI, représentée par son président. Et cela conformément aux dispositions de l'article 108 du statut de Rome, c'est-à-dire ne plus poursuivre Germain Katanga.
Un autre ancien chef de guerre de l'Ituri récuse le président de la Chambre pour la simple raison qu'ils se sont combattus sur le terrain.
Ndjabou a évoqué deux arguments. Le tout premier, qu'il tenait également le président de la composition responsable de l'irrégularité de leur détention en prison. Parce qu'en rappelons-le, ils ont été arrêtés au mois de mars 2005. Depuis, oui, mars 2005, jusqu'aujourd'hui, ils sont prévenus. C'est la première fois en 11 ans qu'ils passent devant les juges. La deuxième raison, pendant les hostilités en Ituri, l'actuel président de la composition s'est retrouvé également dans un groupe armé qu'on appelait RCD Goma. Et donc, en tant que tel, il s'est combattu mutuellement. Donc, lui trouve anormal que ce soit encore lui qui soit son juge. C'est pourquoi il a demandé au président de pouvoir se déporter. Et où, dans tous les cas, il a récusé.
Germain Katanga a été condamné à 12 ans par la CPI, renvoyé en RDC pour purger sa peine. Son élargissement devait intervenir le 18 janvier dernier. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Autre procès qui fait l'actualité, celui de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, quelques jours après l'entame du procès de l'ancien président ivoirien et de son bras droit, surnommé le général de la rue. L'accusation, dont le chef de file est la procureure Fatou Bensouda, déclare que l'objectif de cette procédure est de faire éclater la vérité pour que justice soit rendue aux victimes et empêcher que d'autres crimes de masse ne soient commis. Au moment même, la défense fustige la procédure de vice de forme et de fond. Maître Amadou Tioulé Diara, avocat au barreau Mali, donne son opinion au micro de Modibo Dembélé.
C'est le procès de la démocratie en Afrique avec ses balbutiements et les choses qu'on aurait pu régler à l'amiable aujourd'hui se trouvent à la CPI. Parce que le premier principe de l'organisation de l'Union africaine, c'est le règlement pacifique des conflits. Alors, ce règlement pacifique des conflits, aujourd'hui, est sur le point d'être mis en cause, précisément pour laisser, en fait, tout à cette Cour pénale internationale. Il aurait dû en être autrement, parce que deux poids, deux mesures. Il est difficile de comprendre que la juridiction nationale ivoirienne ait jugé Simone Gbagbo et que son époux, le président Gbagbo, lui-même se retrouve devant la CPI. C'est ça qu'on n'arrive pas à expliquer.
Que pensez-vous des propos de la défense qui regrette que le rôle des acteurs extérieurs à la crise ivoirienne, notamment la France et le Burkina Faso, ne soit pas abordé?
Le président Laurent Gbagbo, quand il a senti qu'il a été défait par ses forces, il s'est, si vous voulez, barricadé dans son bunker et mitigé effectivement l'intervention de la France. Nous n'en serions pas là aujourd'hui.
D'aucuns accusent la Cour pénale internationale de s'acharner contre les dirigeants africains. En tant qu'avocat, que répondez-vous à ces allégations?
Ils n'ont pas pas tout à fait tort. Depuis 1998, nous avons même plaidé à l'occasion des différentes séances BID ici pour que le Mali ratifie le traité de Rome. Parce qu'on avait pensé que la CPI aurait eu une influence dissuasive. Mais aujourd'hui, avec le tournant que ça a pris, tout le monde a le sentiment aujourd'hui qu'en fait, elle est dirigée contre les Africains seulement et uniquement les Africains. Est-ce que la CPI va se ressaisir? La question est là.
Tout ceci se passe sous l'œil vigilant de l'Union africaine. Comment expliquez-vous cela?
Regardez un peu l'Union africaine face à la crise burundaise. Un pas en avant, deux pas en arrière. Le traité est clair. Le point H dit clairement que le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre en cas de crise comme les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Or, s'il n'y a pas le génocide, les deux autres aspects sont remplis aujourd'hui dans la crise burundaise. Mais Nkurunziza est en train de tenir tête pour dire qu'il n'y aura pas de déploiement des forces africaines sur son territoire. Alors que les droits de l'homme, la dignité humaine dépassent les frontières des nations aujourd'hui.
Maître Amadou Thiéoulé Diarra, avocat du barreau malien, joint par Modibo Dembélé.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Les électeurs du Congo-Brazzaville sont appelés aux urnes le 20 mars 2016 prochain pour le premier tour du scrutin présidentiel. L'opposition qui avait boycotté un référendum pour le changement de la constitution et vivement contesté la modification du calendrier électoral a finalement décidé de participer aux élections. Qu'est-ce qui motive une telle décision? Nani Talani a joint à Brazzaville Pascal Tsatim Biala, secrétaire général de l'UPADS, parti membre du Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD.
Aussi longtemps que vous boycotterez, ben ça vous affaiblira. Voilà comment nous concevons, nous, la participation. Mais, bien sûr, il faut que nous nous assurions que les conditions... cette élection sont des conditions qui garantissent la transparence et la fiabilité.
Alors, quelles sont les garanties de transparence que vous avez?
Nous avons posé des conditions. La première condition, c'est que, comme toute élection, madame, il faut une commission électorale qui est indépendante parce que nous n'avons pas confiance en cette administration congolaise qui est une administration du parti au pouvoir. Les préfets, les sous-préfets, tous ceux qui tiennent l'administration sont des membres très actifs du Parti congolais du travail, du Parti au pouvoir. Donc nous voulons qu'il y ait une commission électorale indépendante, mais dont l'indépendance est reconnue par tous. La première condition. La deuxième, il faut un corps électoral. Nous avons là un corps électoral qui est douteux. Et nous avons même demandé au pouvoir d'auditer le fichier électoral actuel, comme cela se fait dans un certain nombre de pays, comme le Niger. Ça, c'est la deuxième condition pour que nous ayons un corps électoral fiable. La troisième question, c'est maintenant dans la modernité. Parce que tous les pays africains sont en train d'accéder à cette modernité qui consiste à accéder à la biométrie pour élaborer des cadres électoraux biométriques. Alors vous me dites, mais vous ne les avez pas obtenus puisque le pouvoir n'a pas changé.
Exactement, oui. Qu'allez-vous faire?
Effectivement, nous allons, parce que nous avons dit, ces conditions remplies ou pas remplies, nous allons passer à l'élection présidentielle. Nous allons redoubler de vigilance. Nous allons demander aux nôtres d'être présents dans les bureaux de vote et si ce n'est pas pour éliminer totalement la fraude, nous voulons l'atténuer autant que possible.
Êtes-vous vraiment certain que l'opposition peut battre le pouvoir en place?
Il n'y a rien d'impossible, madame. C'est peut-être un test grandeur nature. Nous avons fait de grandes mobilisations pendant la campagne référendaire à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, à Doulouse, la troisième ville du Congo, ici à Brazzaville, la capitale. Nous avons fait de grandes mobilisations, de grandes meetings. Ensuite, nous avons réussi à boycotter le référendum où à peine 10% sont allés voter. Si nous pouvons capitaliser justement ce rejet actuel, faute d'avoir réussi à arrêter le processus de M. Sassou, nous pouvons, avec le peuple congolais, nous pensons l'obtenir par la voie des urnes, plutôt que de prendre la rue, comme nous l'avons fait.
Voilà, c'était Pascal Tsatim Biala, secrétaire général de l'UPADS, parti membre du Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, joint à Brazzaville. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a visité hier pour la première fois une mosquée du pays. Lors de son passage dans un centre islamique de Baltimore, dans l'est du Maryland, le chef de l'exécutif américain a dénoncé une rhétorique haineuse visant les musulmans. Il a aussi appelé une vigoureuse défense de la liberté religieuse pour tous. Les précisions de Lionel Gaïma.
D'entrée de jeu, le chef de l'exécutif américain a souligné les sujets d'inquiétude des musulmans américains. Comme tous les Américains, vous êtes préoccupé par la menace du terrorisme. En plus de cela, en tant que musulman américain, vous avez une autre préoccupation. Ce que votre communauté entière est souvent prise pour cible ou est accusée pour les violents actes de quelques-uns. Notons que la communauté musulmane est minoritaire aux États-Unis. Le président Obama s'est attelé à corriger ce qui, à son avis, est une énorme distorsion de leur perception ici aux États-Unis. Nous avons récemment entendu une rhétorique politique inexcusable contre les musulmans américains, a-t-il déclaré. Une allusion à l'idée de l'homme d'affaires et homme politique républicain Donald Trump qu'il faut geler l'entrée des musulmans aux États-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Barack Obama a cité l'exemple de nombreux leaders musulmans américains qui, a-t-il dit, agissent pour le bien de tous.
Some of them are doctors, some of them are community leaders.
Certains sont des médecins, d'autres des leaders communautaires, des leaders religieux. Tous font un travail extraordinaire, non seulement au sein de la communauté musulmane, mais au sein de la communauté américaine en général. La présence des musulmans aux États-Unis date de temps coloniaux, a tenu à souligner le président Obama, ajoutant qu'il faut célébrer leur contribution, non seulement en cas de problème, mais en tout temps. Nous sommes une seule famille américaine et lorsqu'une partie de cette famille se sent marginalisée, de seconde classe, prise pour cible, cela déchire la nation. Le président américain a invité ses compatriotes à un dialogue honnête pour mieux se connaître. Il a appelé à l'union sacrée contre les extrémistes qui, a-t-il dit, cherchent à opposer les communautés religieuses. Les musulmans américains sont tout aussi patriotes que les autres Américains, a rappelé le chef de l'exécutif américain, soulignant qu'ils sont nombreux à avoir combattu et avoir été tués dans les rangs de l'armée américaine. Par conséquent, la liberté de religion inscrite dans la Constitution américaine vise à protéger toutes les religions, y compris l'islam, a rappelé le président Obama. Si nous sommes sérieux à propos de la liberté religieuse, et je m'adresse maintenant à mes frères chrétiens qui demeurent la majorité dans ce pays, nous devons comprendre qu'une attaque contre une religion est une attaque contre toutes les religions. Pour mieux lutter contre l'extrémisme, le président Obama a dit qu'il faut veiller à ce que les crimes haineux soient punis. Par ailleurs, les leaders religieux, y compris les musulmans, doivent s'exprimer lorsqu'on persécute les chrétiens dans le monde ou lorsqu'on assiste à la montée de l'antisémitisme, a déclaré le président Obama hier à la mosquée de Baltimore dans l'État du Maryland.
En Belgique, le gouverneur de la province de la Flandre occidentale a lancé un appel à ne pas nourrir les réfugiés du port belge de Zeebrugge. Maëlys Segal a joint Dave Sinartet, un politologue belge enseignant à l'université de Vrijge de Bruxelles.
Le gouverneur de la province de Flandre occidentale s'inquiète clairement déjà depuis un moment du nombre de migrants qui tentent leur chance ces jours-ci depuis Zeebrugge pour rejoindre la Grande-Bretagne parce qu'à Zeebrugge, les contrôles seraient moins sévères qu'à Calais et Dunkerque. Et donc, il essaie absolument d'éviter qu'une situation, une jungle comme à Calais se développerait en Flandre occidentale et notamment à Zeebrugge. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a donc cette déclaration un peu problématique de ne pas nourrir ces réfugiés illégaux parce que ça pourrait justement en attirer encore plus.
Est-ce que vous pensez que cette déclaration met en exergue une certaine xénophobie dans cette région de Flandre occidentale ?
Bien sûr, le fait que pour décourager les réfugiés illégaux de venir à Zeebrugge, il appelle la population à ne pas les nourrir. C'est bien sûr, pour le moins qu'on puisse dire, une déclaration pas très heureuse qui montre quand même aussi que son inquiétude, qui est probablement juste et compréhensive, mène à des déclarations qui, quand on les analyse en termes de droits de l'homme et aussi d'humanité, sont problématiques, notamment venant d'un chrétien-démocrate, parce qu'il est membre du parti chrétien-démocrate flamand, pour qui normalement les principes humanitaires et les principes de charité sont importants. Donc c'est une déclaration un peu problématique, même si on peut comprendre son inquiétude plus large sur le développement d'un nouveau Calais à Zeebrugge, dans lequel il a fait ses déclarations.
Dave Sinardet, politologue belge et professeur de sciences politiques à l'université Vrije de Bruxelles. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Alberson, présentation Morgane Guiriec. Je vous souhaite une excellente journée à tous.